Merci beaucoup. Vous dire également qu'à peu près 200 Canadiens qui étaient sur le bateau de croisière Diamond Princess au large du Japon, qui avaient été donc placés en quarantaine, finalement sont arrivés au Canada, se sont retrouvés à la base militaire de Trenton. Ça s'est passé autour de 2 heures cette nuit. Et là, ils sont dans une situation de quarantaine. Donc, l'état des passagers sera évalué. Et par la suite, on va les envoyer à Cornwall, en Ontario, où ils devront se soumettre à une deuxième quarantaine. Ils l'étaient déjà là, au Japon, avant de pouvoir retourner chez eux et reprendre leurs activités quotidiennes. On sait que sur ce bateau, il y avait presque, 3 800 personnes. Il y a 643 passagers, 47 Canadiens qui ont contracté le virus, ce qui fait que c'est le principal foyer à l'extérieur de la Chine. Alors, et là, vous avez tous ceux et celles qui sont donc déjà contaminés, là, qui sont toujours en Chine et qui sont traités par les autorités chinoises. Revenons sur le procès d'Éric Salvaille. Vous avez peut-être entendu tantôt Marie-Laurence. En gros, ce que M. Salvaille dit, là, je ne parlerai pas des faits comme tels. Alors, il dit que c'est farfelu, la déclaration ou le témoignage de Donald Duguay, que ça ne marche pas dans le temps, puis que ce n'est pas le genre à faire ça, puis qu'en plus, la description que Duguay fait de l'agression est impossible, compte tenu qu'à l'époque, il était maigre et petit, et qu'il ne mesurait pas 6 pieds, puis qu'il n'était pas capable, avec son physique, d'attaquer Donald Duguay. Là où c'est assez spécial, c'est sa notion de ce qui est, appelons ça, une agression sexuelle, une inconduite sexuelle, une forme de harcèlement. Et là, il prétend que le milieu des communications, le milieu artistique, c'est plus libéral que de donner une tape sur une fesse à quelqu'un dans la mesure où tu connais la personne, c'est correct. Le fait de s'exhiber, c'est une joke. Que finalement, une agression, c'est quand il y a un contact, là, vraiment là, un contact qui n'est pas désiré. C'est assez spécial. D'abord, je ne suis pas certain que le milieu artistique doit être bien différent des autres. Je ne suis pas sûr qu'une femme qui travaille en télé, en radio, est plus confortable de voir des gestes inappropriés être posés que quelqu'un qui travaille dans un bureau de comptable, pour reprendre l'expression de M. Salvaille. Puis là, je suis retourné à la série de reportages dans la presse concernant justement les inconduites reprochées à Éric Salvaille. Avance sexuelle en string. Partie intime exhibée ou empoignée, tentative de séduction insistante dans des salles de montage. 11 personnes ont raconté à la presse avoir subi des inconduites ou en avoir été témoins de la part du producteur Éric Salvaille. Et on donne le cas, puis vous allez me dire comment vous pouvez apprécier la chose. Je comprends qu'il n'y a pas d'accusation dans ce cas-là. C'est une recherchiste qui témoigne. Elle est au téléphone, on est au début des années 2000, et de façon insistante, on lui tape sur l'épaule. Quelqu'un veut lui parler. Quand je me suis retourné, j'avais le pénis d'Éric Salvaille en pleine face. Je ne me suis pas senti menacé, mais ça m'a indisposé. C'est complètement dépassé, en fait déplacé plutôt, et j'étais en colère. Alors, moi je pense pas qu'il y a personne qui trouve ça comique. Je pense pas qu'il y a personne qui trouve que l'exhibitionnisme en milieu de travail, c'est quelque chose qui doit être toléré. C'est quand Harvey Weinstein disait à des femmes, « Veux-tu me regarder prendre ma douche? » Tu te dis, « C'est quoi ton problème? » Alors, je comprends que le procès porte sur des faits. Est-ce que, oui ou non, Éric Salvaille a agressé, séquestré Donald Duguay? Duguay prétend que oui. Éric Salvaille dit que c'est farfelu, que ça ne coïncide pas dans le temps. Est-ce qu'il est allé à Radio-Canada alors qu'il ne travaillait pas? Est-ce qu'il est... Bon, on verra la suite des choses dans quelques jours, là, si la Couronne dépose d'autres éléments de preuve. Parlons de la DPJ. Hier, rapport de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. On a examiné 5 ans après l'application de la réforme des structures du système, donc qui avait été mise en place par l'ex-ministre de la Santé, qui était le responsable à l'époque, Gaétan Barrette. Conclusion. Ça ne s'est pas amélioré pour ce qui est de la DPJ puis de la protection des droits des enfants. Et même dans plusieurs cas, ça s'est dégradé. Et on donne quand même quelques précisions ce matin. On dit, entre autres, que l'évaluation, selon les normes ministérielles des cas, doit se faire dans les 12 jours. Or, en 2018-2019, le délai pour une évaluation était de 26 jours. On note également que les services offerts aux enfants les plus vulnérables ne se sont pas améliorés et que ça s'est même détérioré dans certains cas. Étirement de délais qui ont des conséquences très graves, absence de suivi des ordonnances de la Cour, je vous l'ai répété je ne sais pas combien de fois, des enfants qui ont subi de la négligence pendant des mois et qui ont été, je dirais carrément, abandonnés par le système. Bref, que la réforme des structures n'a pas donné le résultat prévu. Moi, je pense qu'au-delà de la réforme des structures, il y a, de façon générale, puis on le voit avec les auditions de la Commission Laurent, un problème grave, un problème majeur. Tu sais, quand tu te rends compte, par exemple, et là, c'est un chef de police qui témoigne, directeur du service de police de la ville de Sherbrooke, M. McConnell, qui s'en vient dire qu'il n'y a pas de communication avec la DPJ. Les commissions scolaires disent également qu'il y a des problèmes de communication avec la DPJ. Fait que c'est pas juste les structures, là, globales. Je pense pas que ça a aidé. Je pense que la réalité, c'est qu'il y a un roulement de personnel. Il y a un épuisement professionnel parce que c'est une job qui est dure. Que c'est des causes qui viennent te chercher d'enfants maltraités, d'enfants négligés. Comment tu gères ça? Puis là, là, les gens se parlent pas. L'école n'est pas au courant, la DPJ leur dit pas tout, la police n'est pas nécessairement au courant. Tu sais, on nous parle toujours du modèle parfait comme si tout marche. Ça fonctionne dans des cas, puis dans d'autres cas, ça marche pas. Et on va en reparler ce matin avec celui qui était le ministre de la Santé, donc Gaétan Barrette. La Caisse de dépôt et de placement du Québec a un rendement de 10,4% en 2019, ce qui est un bon rendement. Quand on regarde aussi et qu'on compare, c'est inférieur avec le rendement obtenu par des institutions, là, avec lesquels on est capable de faire des parallèles. On note également que le portefeuille immobilier, c'est un peu plus difficile. Et surtout, c'est que les prochaines années s'annoncent pas nécessairement faciles. Il y a eu une vague dans les dernières années très positive de façon globale. C'est sûr que quand les marchés fonctionnent, la caisse va bien. Quand il y a des crises, comme on a vu dans le passé, papier commercial, la crise des titres de technologie, bien, c'est sûr que la caisse, il est cas. Et que le rendement demeure excellent, et c'est ça qui est important. Puis quand vous le regardez, le règne de Michael Sabia sur plusieurs années, ça a été positif, mais la conjoncture était également favorable. Alors Charles Aymon, nouveau président, sera avec nous aussi un peu plus tard ce matin. Du côté de Hydro-Québec, légère baisse de profit. Ce qu'on nous dit en gros, c'est que l'an passé, c'était un peu gonflé par des transactions uniques, là, des rentrées d'argent uniques, ce qui fait qu'on se retrouve quand même à pas loin de 3 milliards de profits pour Hydro-Québec et que là, on sent l'effet des changements climatiques. Exemple, cet hiver, vous allez probablement payer un peu moins cher votre facture d'électricité, mais peut-être que si vous climatisez, bien, ça va vous coûter plus cher durant la période estivale. Il y a eu tout le On a vu là, la tempête de verglas. Et je rappelle, parce que c'est important de le dire, appelons ça la négligence tolérée de Hydro-Québec pour ce qui est de l'entretien autour des lignes électriques. Là, je comprends qu'on va me dire qu'on va rajouter des millions, là, mais disons que le programme a été pas mal négligé pendant des années et qu'on aurait pu faire plus et qu'on aurait évité pas mal de pannes électriques, c'est qu'on a rendu le réseau extrêmement fragile. Rapidement, deux choses. Roger Stone, ami conseiller de Donald Trump, a été condamné à 3 ans de prison. Évidemment, c'est toute la saga des élections, comment Trump a pris le pouvoir. Roger Stone, si vous voulez regarder un documentaire en fin de semaine, c'est sur Netflix. C'est une affaire complètement cinglée. Ça, c'est sorti depuis un petit bout de temps, mais ça vaut la peine d'être vu. Ça s'appelle « Passez-moi Roger Stone » ou « Get me Roger Stone ». Vous allez voir comment ce gars-là fonctionne, comment il magouille depuis des années en politique américaine. Et dans son cas, 3 ans de prison, c'est nettement inférieur à ce que la poursuite voulait. On sait que Trump a tweeté en disant que c'était injuste. Et la bonne nouvelle pour M. Stone, c'est que le président va le gracier comme il le fait cette semaine avec 11 bandits à cravate. Précision, tous les présidents utilise ce pouvoir pour gracier des gens qui ont des dossiers criminels, des gens qui ont été condamnés. Obama l'a fait, Clinton l'a fait. Souvent, on se retrouve avec des gens qui gravitent autour du pouvoir, des gens qui ont contribué à la caisse. Et après un certain nombre d'années, ben, on les laisse partir. Propriétaire d'un club de football, 49ers de San Francisco, qui était pris dans une affaire de gambling. D'autres qui étaient pris dans des histoires de corruption. Alors, Stone va pouvoir bénéficier de la bonté, de la gentillesse du président. Il est 6h23. Un accident sur la 440 maintenant.